Vous êtes sur RTL.
Bon réveil avec RTL Matin et Stéphane Carpentier et le journal d'Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Toute l'actualité de ce dimanche, d'abord le retour du beau temps et le nombre de noyades qui repart à la hausse.
Les températures frôlent les 30 degrés dans le sud-ouest. Les habitants de la Gironde se laissent tenter par la baignade, mais trois personnes sont mortes noyées ces trois derniers jours. Jean-Marc Terrier.
C'est un homme de 64 ans qui s'est noyé hier en début d'après-midi entre la Cano et Carcan-Maubuisson. Quelques heures plus tard, c'est un septuagénaire qui n'a pu être ranimé à quelques kilomètres de là. Avec une météo quasi estivale, les plages de l'océan se remplissent comme à la pleine saison. Mais ces espaces de baignade ne sont plus surveillés depuis la fin août et les dangers sont toujours là. En particulier, les fameux courants de Baïne qui emportent les baigneurs imprudents et qui ne leur laissent quasiment aucune chance. Ces courants, cumulés actuellement à une forte houle, ne peuvent qu'inciter à la prudence. Une prise de risque inutile qui a également coûté la vie à une jeune nageuse de 25 ans. Elle s'est noyée jeudi soir sur la plage de Carcan, dans le Nord Gironde.
Le reportage de Jean-Marc Terrier pour RTL.
Dans l'actualité également, la France qui suspend ses ventes d'armes à la Turquie.
Une décision en sanction face à l'offensive militaire turque contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. L'Allemagne, elle aussi, a décidé de suspendre ses ventes d'armes. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans plusieurs villes de France pour demander au président Erdogan d'arrêter ses frappes militaires. Le reportage de notre envoyé spécial sur place, Wilson Fash.
Ils sont quelques centaines à se presser contre les portes closes du poste frontière qui sépare la Syrie de l'Irak. Enfants en pleurs, vieillards portés par leurs cannes, tous ont fui les affrontements entre forces kurdes et turques dans le nord syrien. Mariam Ibrahim a 60 ans, elle espère traverser la rivière qui fait office de frontière et trouver refuge en Irak.
Je ne peux plus pleurer, je n'ai plus de larmes, je ne veux pas marcher. Je veux simplement que Dieu arrête cette guerre. Nous n'avons rien fait de mal, nous souhaitons seulement vivre dans notre patrie. Il y a eu tellement de morts déjà. Il faut que la communauté internationale intervienne, mais je crois que nous n'avons que des ennemis. C'est l'opinion de la vieille femme que je suis.
À Kamishli, capitale de la région kurde syrienne, les rues habituellement noires de monde sont désormais vides. Cette partie de la Syrie avait été jusqu'ici relativement épargnée par le conflit syrien, même pendant la guerre contre le groupe État islamique. Mais désormais, la guerre est à leurs portes. L'hôpital de la ville accueille les civils blessés dans les affrontements. Massoud Ali Merdi a eu l'abdomen transpercé dans une explosion.
Pendant la guerre contre Daesh, ils étaient toujours assez loin d'ici. Mais maintenant, l'armée turque est juste à côté. C'est pour ça qu'on a peur. Nos combattants ont donné leur vie pour vaincre les djihadistes. Et maintenant, Erdogan est là pour nous achever.
Si le désespoir avait une odeur, il sentirait sans doute comme les couloirs de l'hôpital de Kamishli. Ici, tous font écho aux propos de ce blessé. Le sentiment d'abandon est immense.
Le reportage de Wilson Fash en série pour RTL.
Retour au point mort dans l'affaire du pont de Ligonnès après une journée plus que rocambolesque.
L'homme interpellé vendredi par la police écossaise à l'aéroport de Glasgow a finalement été relâché hier. Si ses empreintes correspondaient partiellement à celles du suspect de la tuerie de Nantes, les tests ADN se sont finalement révélés négatifs. Il ne s'agissait donc pas de Xavier Dupont de Ligonnès. Une terrible méprise pour la voisine de cet homme qui réside en région parisienne.
On est soulagé maintenant, la question qui demeure, c'est de savoir qu'on peut quand même faire basculer une vie de quelqu'un sur un simple coup de fil, ce qui est quand même inquiétant. Et puis de savoir comment après, il va remonter la pente, on ne sait pas trop, on n'a aucune nouvelle de comment il a été pendant 24 heures, parce que pour lui, ça lui est tombé dessus en sortant de l'avion. C'est quelque chose de tellement improbable que ça ne devrait pas arriver, parce que je pense qu'on devrait faire des vérifications bien plus avancées avant de lancer une affirmation telle qu'elle a été faite pendant des heures et des heures, notamment sur les grandes chaînes de télévision.
Un témoignage recueilli par Romain Houck pour RTL.
Et à 8h50, tout à l'heure, on se posera une question. Où se situe le dysfonctionnement dans ce dossier et dans cette affaire rocambolesque, justement? Notre invité à 8h50, un ancien patron de la police judiciaire qui nous dira tout. Dans un instant, on va parler de la Française des Jeux qui va bientôt faire son entrée en bourse. A tout de suite.
RTL Matin. RTL.fr. Il est 8h07, RTL Matin avec Stéphane Carpentier et la suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan.
Et dans l'actualité de ce dimanche matin, nous avons le gouvernement qui parie sur un succès populaire pour la privatisation de la FDJ.
Oui, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, espère que l'opération va attirer de nombreux petits actionnaires entre le 7 et le 20 novembre prochain, Adeline Courson.
Effectivement, et pour cela, le gouvernement met en place des offres commerciales alléchantes, une action offerte toutes les 10 actions achetées pour les particuliers et même des cotes de 2% sur le prix de la d'action. C'est en tout cas le vœu de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie espère, vous l'avez dit, un succès populaire. 20% de l'entreprise serait ainsi vendue aux particuliers. L'État, lui, ne conservera que 20% du capital contre 72% aujourd'hui. Objectif, 1 milliard d'euros de recettes dans les caisses de l'État et pourquoi pas davantage. Je ne veux pas fixer de limite à notre ambition, confie ce matin Bruno Le Maire au journal du dimanche. Et la bonne santé de la FDJ ne peut qu'encourager les foyers à investir. Avec près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 325 millions de bénéfices, l'entreprise table sur une croissance de l'activité de 3 à 4% entre 2020 et 2025. Le prix de l'action sera fixé quelques jours avant le lancement de la privatisation. Il doit être abordable pour ne pas décourager les épargnants individuels. En 2005, le prix, par exemple, des actions EDF était de 32 euros. Il était dissuasif. Cette fois-ci, les banques recommandent une fourchette entre 15 et 20 euros l'action.
Voilà, 15 à 20 euros l'action pour l'action de la FDJ, la Française des Jeux, les précisions signées Adeline Courson pour RTL. La droite se choisit son nouveau chef. 130 000 adhérents sont appelés à voter sur Internet pour élire le successeur de Laurent Wauquiez. Trois candidats, Christian Jacob, Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Résultat du premier tour attendu dans la soirée.
Et puis devenir garagiste, visiblement plus facile à dire qu'à faire.
L'Union des entreprises de proximité avait appelé les pouvoirs publics à venir partager le quotidien des entrepreneurs. Eh bien, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie est venue hier en immersion dans un garage de Tourcoing, l'occasion pour Agnès Pannier-Runacher de constater les difficultés rencontrées sur le terrain, Antoine Decarne.
À peine entrée dans ce garage familial de Tourcoing, la secrétaire d'État a compris qu'elle n'était pas en stage d'observation.
Oui, il est pour combien, 7000 ?
7000 euros, c'est madame la ministre faire la facture après.
Et donc très vite, Agnès Pannier-Runacher s'installe devant un poste d'ordinateur.
Donc c'est DR891WJ.
C'est ça ? C'est la plaque, oui.
Pendant près d'une heure et demie, elle se rend compte des difficultés et du temps perdu par David Ribeiro et ses 5 salariés pour le secrétariat.
Mon métier est en train de changer totalement. Moi, mon boulot, c'est carrossier peintre et je vais bientôt me retrouver avec le temps dans le bureau. Ça, c'est un truc qui m'embête un peu.
Il aimerait embaucher sur ce poste, mais a peur des charges. Agnès Pannier-Runacher lui explique alors le dispositif des emplois francs.
C'est une façon aussi d'être au plus près du terrain et de capter des signaux faibles sur ce dont, en général, les artisans ont besoin et pour nous, au niveau de l'administration, de mieux travailler avec ses professionnels.
Ponçage, nettoyage, peinture, elle est passée par tous les postes, une expérience appréciée d'abord par les salariés.
Elle est en pleine immersion, donc elle se rend compte un peu des difficultés de notre métier, ce qui est très intéressant.
Un bon moyen de casser cette barrière entre les politiques et ces entreprises de proximité qui se sentent bien souvent délaissées.
Antoine Decarne dans le Nord pour RTL. Au Japon, le puissant typhon Agibis a fait au moins 11 morts. L'archipel est balayé par des pluies sans précédent qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain. Trois matchs de la Coupe du Monde de rugby ont été annulés, dont la rencontre Angleterre-France qui était prévue hier. L'affiche entre le Japon et l'Écosse, elle, sera jouée comme prévu à 12h45, heure française.
Et puis le Grand Prix de Suzuka au Japon, toujours se dispute hein, depuis tout à l'heure. Grand Prix de Formule 1, 35 tours disputés. Bottas est devant Hamilton, Vettel est 3e actuellement et Gasly, le français, seulement 6e. Charles Leclerc est 9e position pour l'instant de ce Grand Prix du Japon. On parle football avec un nouvel exemple, Alexandre, de bizarrerie dans les règles.
En Gironde, une équipe féminine de district est condamnée à perdre ses matchs parce qu'elle ne peut pas aligner suffisamment de joueuses originaires de la région. En fait, si cette équipe gagne, eh bien, elle risque une amende, Denis Grandjou.
Oui, et le scénario est établi à l'avance dans les vestiaires, quelques minutes avant le coup d'envoi du match, comme l'explique une des joueuses, Samia.
Le coach nous dit à la 85e, bonsoir Clara, une petite dédicace en fait à notre gardienne, pour lui dire, Clara, c'est le moment de lâcher.
C'est très dur, donc soit l'attaquante me fait une longue passe, je prends le ballon et je rentre dans le but avec le ballon, ou soit c'est une de mes coéquipières qui arrive, qui passe à côté de moi, donc moi je reste stoïque et je fais rien.
Bah c'est humiliant.
Gaëlle est une des joueuses mutées cette saison dans le club et elle avoue très mal vivre cette situation.
Au bord des larmes, on se bat, l'équipe en face a aussi envie de gagner, nous aussi on a envie de gagner, et c'est aller chercher au plus profond de soi-même et puis de jouer en équipe. Il y a ce plaisir en fait de faire quelque chose en équipe et donc s'aborder son travail en équipe à la fin, c'est frustrant. On a envie de gagner parce qu'on a été meilleur sur le terrain, on n'a pas envie de gagner parce que l'équipe en face a trop de mutés.
Les 32 joueuses des Coques Rouges ne veulent plus se faire harakiri. Elles ont décidé de se retirer purement et simplement du championnat, à moins que la Fédération Française de Football assouplisse son règlement, une option à laquelle aucune fille ne semble vraiment croire aujourd'hui.
Denis Grandjou en Gironde pour RTL.
Merci Alexandre, vous revenez à 9h bien sûr, vous avez toute l'actualité quand vous le souhaitez, vous allez cliquer sur rtl.fr. On salue Anne qui nous écoute depuis les Vosges et qui va partir cueillir des champignons. On vous souhaite un très très bon dimanche. Les cours